Babylone, Nancy Ypsilantis.
Bonjour et bienvenue à Babylone. Revenu de base universel, deux points, la panacée, point d'interrogation. C'est ainsi, Laurence Di Félix, que vous avez souhaité intituler cette émission et le débat que vous allez nous proposer, car après-demain, le 4 octobre, une initiative populaire sera déposée à Berne qui propose un véritable changement de société, l'introduction d'un revenu universel de base. Le débat est donc ouvert sur cette idée presque révolutionnaire.
Oui, une idée qu'on pourrait presque voir comme hallucinante. Une allocation versée à chacun, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation professionnelle ou familiale, et qui permettrait à elle seule de mener une existence modeste, mais digne, sans devoir travailler. Alors l'idée est étonnante, elle n'est pas toute neuve, vous allez l'entendre, et elle soulève évidemment de très nombreuses questions économiques, morales, sociétales, philosophiques, même psychologiques, des questions que nous devrons nous poser puisque dans les deux ans qui viennent, le peuple se prononcera sur cette initiative qui a récolté bien plus que les 100 000 signatures nécessaires pour passer en consultation populaire.
Une approche que vous nous proposez en deux temps.
Oui, d'abord, on va essayer de définir ce qu'est ce revenu de base avec un des penseurs historiques de cette allocation, le sociologue, philosophe et économiste Philippe Van Parijs. Il est de l'Université catholique de Louvain. Il est le cofondateur de Bien International, B-I-E-N, ça veut dire Basic Income Health Network, autrement dit en français, réseau mondial pour le revenu de base. Et avec lui, on va cerner le concept même, ainsi que ses origines.
Et ensuite, nous ouvrirons le débat sur ce qui se passerait en Suisse, le projet.
Oui, avec des pros et des anti, parce que le débat est déjà vif. Nous serons en compagnie d'un philosophe, Serge Margel, d'un membre de l'antenne suisse du réseau Bien, il s'appelle Julien Duboucher-Corté, et un membre d'Avenir Suisse, très opposé au projet, Marco Salvi. Mais avant le débat, les bases théoriques, ma première question posée à Philippe Van Parijs, où trouve-t-on les premiers projets réel ou fantasmé, d'allocation universelle.
Il est important de distinguer, d'une part, la notion beaucoup plus générale de revenu minimum garanti et, d'autre part, la forme particulière d'un revenu de base inconditionnel ou d'une allocation universelle. La première idée, plus générale, d'une forme de revenu minimum remonte en fait au XVIe siècle. Thomas More, dans son Utopie, y fait allusion et l'un de ses amis, Juan Luis Vives, qui était un humaniste lui aussi, d'origine catalane, a alors formulé cette idée dans un petit traité, le premier traité sur l'assistance sociale, De Subventione Pauperum, publié en 1526. Dans ce petit traité, il défend une forme de garantie de revenus pour tous les pauvres d'une municipalité, mais qui est conditionnelle en trois sens distincts. Le droit à ce revenu dépend de la situation familiale de la personne. Le droit à ce revenu dépend de ses autres revenus. A-t-il des revenus suffisants ou non, ou n'en a-t-il pas du tout? Et troisièmement, il est aussi conditionnel au sens où on demande de la personne une forme de contrepartie. Et cette personne doit être disposée à travailler.
C'est en quelque sorte ce qui existe aujourd'hui.
Exactement. Donc ce qui a été introduit au XVIe siècle d'une manière expérimentale, enfin ce qui a d'abord été proposé, puis introduit dans quelques villes flamandes initialement, puis généralisé graduellement à partir surtout de la Deuxième Guerre mondiale dans différents pays européens, en Australie, etc., c'est effectivement une forme conditionnelle de revenu garanti, donc conditionnelle en ces trois sens. Donc le droit à ce revenu dépend de la situation familiale, des revenus d'autres sources et d'une contre-prestation ou d'une disposition à la fournir. En revanche, l'allocation universelle, donc le revenu inconditionnel en ces trois sens, est une idée plus récente. On peut raisonnablement l'attribuer à Thomas Paine, donc à la fin du XVIIIe siècle, qui était un révolutionnaire, un des grands inspirateurs, des grands idéologues, tant de la Révolution américaine que de la Révolution française. Et dans un écrit adressé au Directoire, peu après la Révolution française, intitulé « Agrarian Justice », la justice agraire, il propose une forme de dotation inconditionnelle à tous les jeunes arrivés à l'âge adulte, jointe à une pension de base qui est attribuée à chacun annuellement à partir de l'âge de 50 ans. Donc, peut considérer que c'est la première formulation, qui n'a eu guère d'écho à l'époque, d'une véritable allocation universelle. Puis, au cours du 19e siècle, l'idée est reparue de temps en temps, mais ce n'est qu'au 20e siècle, d'abord en Angleterre, ultérieurement aux États-Unis, qu'il y a eu quelque chose comme un début de débat sur la question.
Qui a pris quelle forme ce débat et qui a été mené par qui ?
En Angleterre, donc, il y a eu l'esquisse d'un débat peu après la Première Guerre mondiale. C'était à l'époque des Quakers, donc des adhérents à une forme particulièrement ouverte et universaliste du protestantisme, qui en ont été les principaux défenseurs. Ça a même été discuté à un congrès du Labour Party, mais a rapidement été oublié. Aux États-Unis, plus tard, dans les années 60, à la fin des années 60, il y a eu un débat sur la question lié à ce qu'on appelait alors l'impôt négatif sur le revenu. L'un des principaux défenseurs de cette idée d'allocation universelle était James Tobin, économiste qui a ultérieurement obtenu le prix Nobel et qui est aujourd'hui particulièrement connu en raison de sa proposition de taxe sur les transactions financières. Mais Tobin était l'un des principaux conseillers économiques du candidat particulièrement radical, disons, aux élections présidentielles américaines de 1972, McGovern. James Tobin était parvenu à mettre cette idée d'allocation universelle, vraiment au sens que nous lui donnons aujourd'hui, sous le nom de Demogrant, au programme du Parti démocrate dans le cadre de cette élection présidentielle. Puis, Nixon a été élu et l'idée est passée à la trappe. Et c'est dans les années 80, alors vers le milieu des années 80, que l'idée a ressurgi, principalement en Europe, indépendamment dans plusieurs pays. Nous avons alors, en 1986, créé le BIEN, qui s'appelait à l'époque le Basic Income European Network. Petit à petit, des personnes de multiples pays s'y sont joints, aussi du Brésil, d'Afrique du Sud, du Canada, etc. Et en 2004, ce réseau européen s'est transformé en un réseau mondial. Et aujourd'hui, il y a environ 25 sections nationales, donc qui, chacune dans un cadre particulier, s'efforce de promouvoir cette idée de revenu inconditionnel.
Alors Philippe Van Parijs, on va essayer de définir les contours de ce revenu universel tel qu'il est défendu aujourd'hui par le BIEN. Quels en sont les principes de base ?
Pour reprendre d'abord la définition, donc c'est simplement un revenu qui est versé par une autorité publique à l'ensemble des membres de la société. Et donc, d'une manière triplement inconditionnelle, hein, au sens où le droit à ce revenu, son montant, sont indépendants de la situation de vie, donc qu'on soit isolé ou qu'on vive dans un ménage comprenant plusieurs membres, le montant est identique, premièrement. Deuxièmement, ce revenu est accordé aux riches comme aux pauvres, donc que l'on ait des revenus faibles ou importants en provenance du travail ou en provenance du capital, on perçoit également cette allocation universelle. Et troisièmement, ce revenu n'est pas conditionné par la disposition à travailler, par la volonté de rechercher ou d'accepter un travail. Donc c'est là le contenu de l'allocation universelle. Alors parfois, comme du reste dans l'explicitation de la proposition suisse, on précise que pour les personnes en dessous d'un certain âge, les mineurs, le montant serait inférieur, éventuellement même gradué selon l'âge des enfants. On précise aussi parfois que ce montant serait supérieur pour les personnes plus âgées, à partir de l'âge de 65 ans par exemple, donc pour que l'allocation universelle soit alors une espèce de pension de base inconditionnelle, à laquelle bien sûr peuvent s'ajouter alors d'autres éléments de pension de retraite liés à la carrière antérieure. Donc, c'est ça l'idée d'allocation universelle. Alors, dans certaines définitions de l'allocation universelle, y compris celle, par exemple, qui fait l'objet aujourd'hui d'une initiative citoyenne européenne au niveau de l'Union européenne, on ajoute une condition supplémentaire à ces trois inconditionnalités, à savoir que ce revenu de base doit être suffisant pour pouvoir en vivre. Non, il me semble pour la clarté du débat qu'il vaut mieux adopter une définition plus large qui dit simplement que c'est un revenu inconditionnel et puis c'est une question distincte que de savoir à quel niveau ce revenu inconditionnel doit être situé.
C'est une question distincte mais qui a une influence énorme sur les conséquences sociétales de la mise en place d'un système comme celui-ci.
Bien sûr, donc ce qui a de l'importance c'est un, le montant, deux, le mode de financement, et trois, et ce n'est certainement pas le moins important de ces trois points, savoir ce que l'allocation universelle est destinée à remplacer. Donc, dans certaines propositions, l'allocation universelle s'ajoute simplement à toutes les dispositions actuelles. Dans d'autres propositions, au contraire, il y a un remplacement partiel d'un certain nombre d'autres prestations sociales. Et donc, c'est important de préciser, bien sûr, ces trois choses et cette question-là, donc la question relative à ces trois précisions, c'est une question qui ne peut pas recevoir de réponse générale, mais qui doit être spécifique à chaque pays particulier, à chaque endroit où on souhaiterait introduire une telle allocation.
Cette nouvelle organisation sociale, on a du mal à la situer sur une échelle gauche-droite. Le revenu de base, c'est à la fois un principe qui est très confiant dans l'individu, sa capacité de gestion, qui prône la liberté individuelle, et puis à la fois un système qui va donner à l'État la tâche de donner à chacun de l'argent. Où est-ce que vous le situez sur cette échelle gauche-droite traditionnelle ?
Mais cette échelle gauche-droite traditionnelle est parfois formulée en termes de liberté versus égalité. En fait, les partisans de l'allocation universelle sont des personnes qui croient très fort à la fois à l'égalité et à la liberté. Et donc, il y a souvent un problème de part et d'autre de la frontière traditionnelle, parce qu'évidemment, à droite, on croit à la liberté, mais guère à l'égalité. Et à gauche, on croit à l'égalité, et donc on est prêt à être beaucoup plus autoritaire dans la manière de gérer la société que ce que souhaitent les défenseurs de l'allocation universelle. Donc derrière l'idée d'allocation universelle, il y a bien sûr une idée libertaire. C'est un élément central d'une restructuration, d'une modernisation de notre système de protection sociale de manière à émanciper davantage tous les citoyens dans chacun de nos pays et à travers le monde. Et je trouve que le débat suisse est absolument fantastique parce qu'il n'y a aucun pays dans le monde où il y a une telle possibilité d'avoir un débat public large qui n'est pas limité aux seuls universitaires ou à quelques apparatchiks des syndicats ou des cabinets ministériels. C'est vraiment une occasion formidable d'avoir un débat beaucoup plus large sur cette question, au-delà de toutes les questions techniques importantes qui doivent aussi être abordées.
Le revenu, c'est comme l'air sous les ailes de l'oiseau. Et ce serait un droit civique s'il y avait un revenu de base. Bienvenue sur Terre.
Merci à Philippe von Paris, cofondateur du Réseau mondial pour le revenu de base. Les bases historiques et théoriques, on les comprend bien, Laurence Di Félix, mais comme il vient de le dire, le revenu de base suscite des questions techniques qui doivent d'abord être abordées, avant même d'imaginer à quoi ressemblerait un monde dans lequel chacun a droit à une rente sans travailler.
Oui, en réalité, il y a deux questions centrales qui s'ouvrent dans le débat spécifiquement suisse. D'abord, ces questions concrètes, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est simplement une utopie? Et puis deuxièmement, ce revenu de base est-il souhaitable? Que peut-on en espérer? Que doit-on en craindre? Alors évidemment, la deuxième question qui est plus philosophique, plus culturelle, nous retiendra plus longtemps, mais j'ai voulu commencer notre débat par les questions matérielles et économiques. Autour de la table, il y avait trois invités, Julien Dubouchet-Cortet, secrétaire général de Promente Sana et membre du comité de Bien Suisse qui soutient cette initiative populaire, Marco Salvi, économiste et chef de projet à Avenir Suisse, et Serge Margel, philosophe, qui s'est penché sur cette question du revenu de base et se montre assez enthousiaste devant ses promesses.
On commence par les questions matérielles.
Oui, le texte de l'initiative fédérale qui sera déposé à Berne après-demain ne mentionne pas de chiffres précis pour cette allocation universelle. Le texte dit simplement « Le revenu de base doit permettre à l'ensemble de la population de mener une existence digne et de participer à la vie publique ». Il n'est pas fait non plus mention du mode de financement. Malgré tout, il y a des chiffres qui circulent. 2500 francs par adulte, 650 francs par enfant. J'ai tout d'abord demandé à Julien Dubouchet-Cortet de commenter ces chiffres.
Le chiffre qui est avancé, effectivement, qui est de 2500 francs, je pense qu'il est relativement correct, même si, évidemment, le coût de la vie peut varier d'un endroit à un autre. 2500 francs, si vous êtes célibataire dans une grande ville comme Zurich ou Genève, avec les coûts que ça a, bah, évidemment que votre vie sera relativement modeste. Si vous êtes une famille de 4 personnes dans la campagne jurassienne, vous avez tout à fait une autre chose. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop se fixer là-dessus. L'idée, c'est d'arriver à un montant qui corresponde à peu près aujourd'hui à ce que les personnes peuvent percevoir à travers l'aide sociale, et donc qu'ils obtiennent de toute façon par des dispositifs de revenus minimum garantis, mais qui, comme on le verra, fait une grande différence, qui n'est pas du tout inconditionnel, comme c'est le cas pour le revenu de base.
Philippe Van Parys nous disait, le revenu de base peut être suffisant ou insuffisant dans ces différents projets. Il est insuffisant pour vivre, dans d'autres il est suffisant. En Suisse, on est bien d'accord, il s'agit d'un revenu qui suffirait à mener une existence.
Oui, on est plutôt sur cette voie-là, avec toujours cette réserve, hein, insuffisant et suffisant. Qu'est-ce qui est suffisant? Si vous êtes adepte de méditation transcendantale et que vous ne mangez à peu près rien, 500 francs par mois, vous avez un revenu suffisant. Donc, je pense que c'est pour ça que l'idée de se baser sur, je dirais, quelque part l'existant de l'aide sociale est un bon indice pour arriver sur quelque chose dont on sait qui permet aux gens de vivre.
Alors, se pose la question de la faisabilité économique de verser à chaque citoyen de ce pays 2500 francs. Le projet tel qu'il passe en sous-main dit quand même que pour les mineurs, la somme serait un tout petit peu moins élevée. Marco Salvi, vous êtes économiste. Est-ce que ça vous paraît jouable, faisable?
Pas faisable peut-être, mais la question c'est de savoir si c'est désirable. Financer un revenu de base de 2000-2500 francs, ça demandera un impôt d'environ 30% sur les revenus. Alors après avoir payé ces 30%, on a encore rien, si vous voulez. On n'a pas d'école, on n'a pas de route. L'État n'a pas encore financé la justice, les hôpitaux, la radio. Donc un revenu de base de 2500 francs par mois, c'est très cher et selon moi, c'est trop cher.
Il existe différents modèles, évidemment, les économistes y pensent. Tous les modèles ne se basent pas sur un impôt sur le revenu. Là aussi, s'il s'agit de verser à chacun une allocation universelle, un revenu de base, on peut imaginer d'autres types de taxation. Et un des types proposés par Bien International, c'est une très large augmentation de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Ça, Marco Salvi, vous n'y croyez pas?
Mais ça revient au même. Vous savez, si on a un impôt sur le revenu ou un impôt sur la consommation, à la fin, c'est les salaires réels qui baissent. Hein. Soit ils baissent parce qu'on a moins de revenus à la fin du mois, soit ils baissent parce que ce qu'on achète coûte plus cher. Donc, en fait, ça revient au même.
Julien Duboucher.
Oui, il y a deux questions. La première question, évidemment, sur celle de la faisabilité, il y a une question de comptabilité assez simple, c'est de voir si ce qu'on va mettre comme argent, et je prends vraiment tout l'argent, donc on estime à peu près 210 milliards si on retient l'hypothèse d'un quart de rente pour les enfants, rapporté au produit national brut, au produit intérieur brut, on est grosso modo à un gros tiers, donc quelque part... L'argent est là, c'est pas la question. Ça résout pas tous les problèmes, évidemment. Mais la faisabilité, elle est faisable. Simplement, maintenant, dans les modes de financement qu'on va avoir, évidemment qu'on aura des impacts qui sont très différents. Et je suis d'accord sur le point que, quelque part, à un moment, entre l'impôt, une baisse de salaire ou l'augmentation de la TVA, il va être financé quelque part. Donc, il y a bien un moment où cet argent, il est pris. Maintenant, il y a juste une chose, c'est que, ce qu'oublie de dire M. Salvi, c'est que, effectivement, peut-être que le revenu va baisser, qu'une augmentation de TVA réduit le pouvoir d'achat, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 2500 francs de revenus qui sont garantis. Donc, il y a des effets de substitution, et c'est vraiment sur les mouvements globaux dans la société qu'on va pouvoir évaluer la désirabilité, cette fois, de la chose et la faisabilité. On sait très bien que si on augmente de trop la TVA, on aura des effets macroéconomiques qui pourraient être préjudiciables. Si on impose trop le revenu en termes de progressivité, on peut avoir de la fuite de etc. Enfin, tous des effets qu'on connaît à peu près, on aura de la peine à les modéliser dans le cadre du revenu de base, mais on voit certains éléments qui nous permettent de dire si telle voie est plus souhaitable que l'autre.
Ça signifie qu'il va falloir qu'on tente l'expérience pour en voir simplement les effets économiques. Serge Margel, à votre avis, notre société, aujourd'hui, elle est assez riche pour s'offrir ce cadeau?
Visiblement, et ce qui est intéressant déjà, on l'entend bien là dans ce qui se dit, c'est que la question majeure quand même, c'est peut-être pas la faisabilité, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut faire. Et ça me semble être aussi la pertinence de ce projet. Évidemment, il va falloir mettre au point le mode de financement, il va falloir réfléchir vraiment à toutes les conséquences qui sont peut-être même pas prévisibles encore aujourd'hui, les conséquences qu'un tel changement va occasionner, ou les changements sociaux, politiques, psychologiques, familiaux, enfin, etc. Il y a des changements, c'est assez colossal ce que ça peut engendrer.
Et c'est
ce
immodélisable, ça.
Difficile, en tout cas, de prévoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va, je crois, ouvrir un débat absolument fantastique. Et on a besoin de débats politiques parce que souvent, difficile pour les citoyens finalement se retrouver dans ces débats politiques. Alors que là, c'est un vrai débat citoyen avec des questions fondamentales sur le statut du travail, sur le statut de l'engagement personnel dans la société, enfin tout ce qu'on pourra aussi discuter plus tard. Mais ce qui me semble intéressant quand on parle de la faisabilité, c'est peut-être plus la question de savoir ce qu'on veut faire. Et pour une fois, on a dans un projet politique la question de, on peut appeler ça un désir, ou en tout cas une volonté, qui passe avant même la faisabilité du projet. Évidemment, si c'est infaisable, on va même pas poser la question, on va dire c'est pas possible. Donc la question ne se pose pas. Là, on entend bien que c'est possible, mais il y a un autre problème. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on le souhaite, etc. Oui, mais ça veut dire que c'est un vrai projet politique. Ça, c'est pas le dire c'est possible, c'est un désir, etc. C'est pas économique au sens strict. Le politique, c'est finalement la question du désir aussi. Qu'est-ce qu'on veut ensemble? Est-ce que on a décidé de prendre plutôt cette voie plutôt que cette autre voie, en sachant les conséquences, parce qu'il faut les mesurer autant que possible. Mais c'est d'abord et avant tout un débat qu'on va devoir mener ensemble et qu'on a déjà commencé à mener. Puisque l'initiative va passer.
Elle sera déposée début octobre et les 100 000 signatures sont déjà fixées.
Donc on peut déjà se dire que le débat a commencé réellement et on n'est pas simplement dans un avenir utopique ou non, la question est posée.
Un des points de départ de cette idée d'un revenu de base, c'est aussi qu'aujourd'hui on est dans une forme de fiction par rapport à l'idée que nous vivons grâce à notre travail, bien international, mais ça en évidence. Aujourd'hui, l'argent des ménages n'est pas lié complètement au salaire. Et ça, vous pouvez peut-être nous l'expliquer, Julien Dubouchet-Corté.
Le travail est à la source de toutes les richesses, il ne faut pas l'oublier. Simplement, évidemment, la forme de redistribution des richesses produites est effectivement réductrice, d'une part, parce que quelque part, on accorde de la valeur et donc de la richesse qu'à un certain type d'activité. Donc, il y a des productions qui sont socialement utiles, mais qui ne rentrent pas dans un processus d'échange marchand, par exemple. Et là, c'est une situation de fait. Aujourd'hui, effectivement, la structure des revenus fait que les revenus découlant directement du travail ne sont pas aussi hégémoniques qu'on a tendance à le penser. Donc, on a effectivement déjà beaucoup de revenus de transfert. Le marché de l'emploi, il occupe 80 et quelques pourcents des actifs, mais les actifs sont 60% de la population, quelque chose comme ça. Enfin, en gros, grosso modo, une personne sur deux ne travaille pas au sens de l'emploi. Il y a effectivement déjà énormément de transferts qui font que le rapport entre le travail et le revenu est en partie distendu. Et l'autre aspect, alors ça, moi je l'avance moins, d'autres ne l'avanceront pas, mais la rémunération du travail en tant que juste rémunération est pour le moins hasardeuse, étant donné que l'utilité sociale notamment n'est pas le critère principal de la rémunération du travail.
Marco Salvi, vous aimeriez réagir, puis après on va quitter ces questions assez concrète.
En fait, on a déjà beaucoup de revenus de transfert en Suisse et la question c'est de savoir comment l'organiser ce transfert. Avec un revenu de base inconditionnel, vous aurez beaucoup de gens qui ne travailleront plus ou qui travailleront moins. Donc c'est ça en fait l'aspect selon moi principalement nocif de ce revenu de base. C'est le fait que plutôt que de travailler, certains empocheront le revenu de base. D'autres n'arrêteront pas totalement de travailler, bien sûr, parce qu'on aime aussi notre travail, mais ils diminueront leur effort. Et ça réduira la part de revenus disponibles pour être redistribués aux personnes qui en ont besoin.
Ce matin, dans Babylone, le revenu de base en question.
Vai, pega, fais tout bosser et joue. Que só sentido ver instigado num lampejo, despertado pelo beijo que o baile parou pra ver. Da machinha fez silêncio, no silêncio escutei uma disritmia em meu coração.
Sobre o amor e seu trabalho, c'était Seu. Laurence Di Félix, il est très difficile de créer des modèles économiques pour ce revenu de base. En revanche, il est assez plaisant d'imaginer à quoi ressemblerait ou ressemblera la société suisse si chacun et chacune avait droit à une allocation de 2500 francs par mois.
Oui, vous verrez, c'est assez génial d'ouvrir l'imaginaire sur ce nouveau monde, d'essayer de tester des hypothèses et leurs conséquences. Tester, c'est vraiment un super sujet de conversation, le revenu de base.
On retourne auprès de vos trois invités.
Julien Dubouché-Corté, Marco Salvi, Serge Margel. Il y a donc cette question concrète de la faisabilité d'un revenu de base. Ça va sans doute prendre pas mal de place au moment où on devra voter, hein, de savoir qui finance avec quel argent, comment, combien. Et puis il y a les questions plus philosophiques, plus sociétales. Philippe Van Paris évoquait tout à l'heure les trois piliers de la définition de revenu de base et d'allocation universelle. Un revenu individuel d'abord, universel ensuite et inconditionnel enfin. J'aimerais qu'on s'arrête sur ces trois points pour structurer un peu notre pensée parce que, évidemment, chaque porte qui s'ouvre nous ouvre plein de champs de possibles, de réflexions sur la définition du travail, de ce qui vaut salaire, de ce qui ne vaut pas salaire, on s'emballe vite. Revenu individuel d'abord. Julien Dubouché-Corté, vous qui faites partie de Bien Suisse, quelle est la base théorique? Pourquoi ce choix de donner des rentes individuel, quitte à créer des formes d'injustice entre des gens qui vivent seuls et des gens qui vivent en communauté. Tout à l'heure, vous citiez l'exemple d'une personne célibataire dans une grande ville ou d'une famille dans une campagne qui peut accumuler les différents revenus de base et vite se retrouver avec un gros revenu familial.
Alors, j'en appelle tout de suite au Parti démocrate chrétien de soutenir le revenu de base, puisque c'est la seule, aujourd'hui, proposition politique qui, effectivement, est très favorable aux familles. En étant parfaitement égal dans son traitement. C'est ça tout le charme de la mesure. C'est que vous pouvez avoir des effets très intéressants sans les viser. C'est-à-dire qu'ici, effectivement, il y a un côté très individualiste. Hein, on dit chacun a son droit à son revenu et on ne tient pas compte de la composition du ménage. Soit, en fait, on a quelque chose de tout à fait incitatif en raison des économies d'échelle bien connues de gens qui se mettent ensemble. On sait que le coût moyen du logement pour une personne dans un collectif ou seul est évidemment pas le même. Et donc ici, on a une forte incitation, mais qui n'est pas une obligation. Rien, il n'y a pas de jugement. Rien n'est dit de savoir si c'est mieux de vivre seul ou si on demande à être en famille. Mais par contre, on a effectivement cet avantage qui aujourd'hui n'existe pas dans la politique sociale puisque l'essentiel des revenus effectivement sont conditionnés à la composition du ménage. L'exemple le plus classique est quand même la rente AVS qui, pour un couple, est d'une fois et demie le maximum de la rente simple. Donc on a une réduction par le seul fait du couple. Donc beaucoup de gens s'en plaignent. Ici, on a vraiment la logique de la liberté, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que la liberté, elle n'est pas forcément individualiste. Au contraire, ici, vous avez quelque chose qui serait extraordinaire du point de vue de la vie familiale, si on le veut, mais aussi de toute forme de communauté, en fait. Et là, quelque part, on a des potentialités, on y reviendra sur les effets possibles, souhaitables, qui sont tout à fait intéressants par rapport au mouvement coopérativiste, par rapport à des formes d'agriculture, par rapport à plein de sortes de projets dans lesquels, justement, il y a une magnifique opportunité au collectif.
J'aimerais bien qu'on s'amuse à évoquer les conséquences possibles d'une rente individuelle. Alors, une des conséquences que vous mentionniez, Julien Dubouché-Corté, c'est justement le fait d'avoir avantage à vivre de manière plus communautaire, puisqu'on fait des économies d'échelle. Quelle autre conséquence ce revenu individuel pourrait avoir par rapport au couple, par rapport, par exemple, au rapport jeune et adulte, hein. C'est une des choses qui peut-être être largement modifiée par cette rente individuelle. Un jeune à 18 ans à 2500 francs dans le rapport avec ses parents, on peut imaginer que ça change quelque chose, Marco Salvi.
Ben oui, en effet, imaginez un peu la réaction d'un ado, sachant que, indépendamment de son rendement scolaire, de sa formation, il aura un revenu de 2500 francs garanti. Hein? Donc, quel rapport aurait-il par rapport à l'école, par rapport aux enseignants? On peut s'imaginer la peine à motiver une classe future d'adolescents qui, à 17 ans, savent que l'année prochaine, ils gagneront 2500 francs indépendamment de leurs résultats scolaires, de leur formation. Comme ça,
donc pour vous, c'est plutôt quelque chose qui risque de démotiver au travail.
Exactement.
Serge Margel,
non. À la formation.
Oui, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir des a priori. Comme ça, humanitaire ou anthropologique sur la paresse spontanée des adolescents. Et il n'y a aucune raison, je pense, sérieuse, d'attribuer à l'avance que les adolescents, sachant qu'ils auront, comme vous dites, c'est vrai, 2500 francs, ça va les démotiver.
Pas tous,
non, mais,
certains.
Mais je pense qu'il ne faut pas dire ça, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas d'abord, hein, on verra. Alors je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais je pense qu'il ne faut pas venir à l'avance, déjà, comme si on savait que, par définition, un adolescent à qui on propose 2500 francs va plutôt tendre vers la paresse. Non, je pense qu'il y a beaucoup qui vont tendre plus tôt en se disant « Mais c'est fantastique, je peux développer ma formation, je pourrais faire des études plus grandes encore et je n'aurais pas besoin de travailler là ou là pour financer mes études. Enfin, »
Entrer
etc.
dans la vie sans anxiété.
Voilà, être beaucoup plus libre de choisir. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement important qui a disparu avec l'industrialisation, ce qu'on appelait les vocations. Hein, c'est-à-dire se poser la question « qu'est-ce que je veux faire de ma vie, dans ma vie ?» sans forcément considérer ah, les travaux qui marchent, les travaux qui rapportent, les formations qui ont un avenir économique, les formations qui n'en ont pas, on les laisse, etc. Ça va poser aussi ces questions. Donc il faut prendre toute la gamme des possibles qui vont s'ouvrir à l'adolescent et pas décider « ah, l'adolescent avec 2500 francs, il va finalement rester devant la télévision toute la journée. » Comme si on avait une idée de l'homme, pas, comme c'est un paresseux dès naissance. Non.
Mais quoi qu'il en soit, ou pas paresseux, le rapport parent-enfant va être modifié par cette question-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le rapport du parent qui peut dire « je finance, mais alors tu bosses pour tes examens », ce rapport entre le jeune adulte et ses parents va être modifié. On est tous d'accord là-dessus.
Oui, mais il faut relativiser parce que moi, je prétends pas que le revenu de base répond à toutes les questions sociétales et la solution à tout. Il y aura des effets qu'on peut qualifier de négatifs, ça et là. Mais globalement, on part d'une situation, il faut voir qu'est-ce qu'elle offre aujourd'hui. Et puis, si globalement, le revenu de base, il offre plutôt plus d'avantages que plus d'inconvénients. Mais on peut pas simplement lui dire parce que... Alors oui, je vois bien les exemples avec un enfant qui va effectivement attendre patiemment ses 18 ans pour ne plus rien faire. Il y en aura certainement, mais il y en a déjà aujourd'hui. Et aujourd'hui, le système est peu favorable à l'engagement des enfants dans les études. Alors, parce que bon, les bourses, les allocations d'études sont assez compliquées à obtenir. Elles sont pas très importantes. Elles font que la pression quand même à la sortie de l'adolescence d'aller plutôt vers des formations courtes qui amènent un revenu relativement rapidement d'une incitation réelle. Ici, on a un intérêt qu'il faut sortir même de la question que de l'enfance. C'est l'allocation de formation à vie et qui est quand même un élément qui n'est pas inintéressant. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'école, former les enfants plus longtemps. Quand vous avez des enfants qui sont en échec scolaire, leur remettre des couches d'école et des couches d'école alors qu'ils aillent faire d'autres choses, qu'ils aillent découvrir. Et puis un jour, peut-être, ils auront l'envie de développer d'autres choses. Et là, ils auront, au miracle, une possibilité assez facile pour faire de la formation continue, pour se reformer. Et ça, c'est quand même un élément qui est très, très intéressant dans le revenu de base.
Oui, et puis ça risque de changer aussi beaucoup. Si le rapport au travail change, la motivation va aussi changer. C'est-à-dire que pour l'instant, la motivation... on croit pouvoir la mener uniquement par des postes de travail intéressants, donc par des formations de qualité, etc. Donc c'est ça qui motive, soi-disant, les adolescents à faire plutôt des études comme ceci ou comme cela. Mais si le rapport au travail change, la motivation aussi va changer. Alors évidemment, si on reste dans cette logique du travail à tout prix, évidemment, la motivation, c'est un bon boulot, un bon travail, donc une formation qui amène un bon travail. Mais si les choses changent, et le projet de l'initiative permettra ce changement, la motivation aussi. Il y aura d'autres motivations. Donc la vie de l'adolescent va se poser en d'autres termes que simplement trouver un bon travail en fonction d'une formation digne, etc. Donc je pense qu'il faut aussi considérer les changements qui vont être occasionnés par ces transformations sociales.
Au-delà des questions jeunes parents, il y a un autre équilibre qu'on pourrait imaginer modifié par ce premier élément qui est le fait qu'un revenu de base est un revenu individuel, c'est le rapport dans les couples. Le rapport homme-femme, alors ça c'est quelque chose qui évidemment est très débattu parce qu'on se dit s'il y a un revenu de base, alors peut-être que le revenu subsidiaire au sein du couple peut être remplacé par ce revenu de base. C'est un argument pour dire que c'est pas très progressiste par rapport à la condition féminine. Et puis l'autre chose quand même, c'est qu'une femme qui a 2500 francs peut aussi se permettre parfois de quitter son mari, ce qui là tout d'un coup est plus progressiste. Alors qu'en pensez-vous?
Justement, c'est là la question.
Marco Salvi.
Nous ne sommes ni des anges ni des démons. En moyenne, la personne moyenne, elle réagit à des incitatifs d'ordre aussi financier. Eh bien, je pense qu'il y aura un effet négatif qui va à l'encontre des intérêts des femmes C'est que les revenus d'appoint sont souvent des revenus féminins. Et donc, les femmes réagissent d'une manière plus rapide à des changements, à des incitatifs économiques sur le salaire. Donc, quand elles peuvent gagner plus, hein, elles vont participer plus sur le marché du travail. Et si elles peuvent gagner plus sans travailler, elles vont réduire leur participation au marché du travail, vont retourner au foyer, si vous voulez.
Julien Dubouché.
Mais le problème est pris totalement à l'envers, en fait, parce que la revendication, j'irais féministe, autour de la participation au marché de l'emploi, c'est la pleine participation. C'est pas forcément de pouvoir avoir des jobs pourri, pour le dire vite. Les femmes demandent la pleine participation, elles ne demandent pas à être cantonnées à des seconds rôles. Alors si, quelque part, il y a un retrait de l'offre d'emploi, et là je partage le point de vue de Marco Salvi, si effectivement vous avez 2500 francs sans rien faire, entre guillemets, puisque vous recevez votre revenu de base, et puis que vous alliez faire un 50% à la Migros pour 1900 francs, il y a des chances que vous dites l'un dans l'autre, je vais plutôt faire d'autres choses, et probablement du travail aussi, mais on sera dans d'autres types de travaux. Mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Ici, c'était vraiment une incitation à casser cette segmentation du marché de l'emploi qui est sexiste, effectivement, dans les faits, puisqu'elle concerne essentiellement les femmes, et qui consiste à dire, bon, bah, on a la vraie économie avec les gens qui sont prêts à bosser à plein dedans, faire toute leur carrière et mouiller la chemise. Et puis, à côté, on a la deuxième ligue qui va très bien pour les femmes, parce que de toute façon, il n'y a de grands hommes que les hommes, hein, c'est bien connu.
Un revenu universel, c'est le deuxième pilier de ce principe d'un revenu de base. Il faut qu'il soit universel. Pourquoi verser cet argent à ceux qui n'en ont pas besoin? Je vous redonne la parole, Julien Dubouché-Corté, puisque vous faites partie de Bien Suisse, oui, qui porte cette idée.
Je pense qu'il faut préciser quand même une chose, c'est que dire qu'on les donne à ceux qui n'en ont pas besoin... Les gens qui n'ont pas besoin d'un revenu, et ils sont nombreux, hein, et heureusement, hein, l'idée c'est que la plupart des gens continuent à ne pas en avoir besoin au sens de leur survie. En général, ils payent des impôts, ils payent des taxes, ils payent un certain nombre de choses.
Donc ils se le versent à eux-mêmes finalement.
Absolument. Et ça, disons que ça c'est l'erreur fatale de l'étude d'économie suisse sur la modélisation macroéconomique du revenu de base, c'est qu'ils calculent des transferts bruts alors que c'est des transferts qui nets sont nuls. Puisque si quelqu'un a une augmentation d'impôt de 2500 francs qui vaut le montant qu'il reçoit, c'est comme un rabais d'impôt. Il n'y a pas de versement aux riches. L'idée c'est pas que tout le monde va avoir 2500 francs de plus demain. C'est pas ça. L'enjeu. L'idée de le donner à tout le monde, c'est parce que, justement, la conditionnalité, à partir du moment où on est plus ou moins d'accord, et je crois que dans les sociétés occidentales, c'est le cas, qu'on ne laisse pas crever quelqu'un dans la rue, c'est ça, en fait, la ligne de base. Ben après, la façon de répondre à cette exigence et à ce droit, hein, puisqu'il s'inscrit quand même dans la Constitution, n'est pas du tout indifférent en termes d'effet. Et c'est là où l'intérêt, c'est que la redistribution se fait a priori. Donc elle est en liberté, elle n'est pas en rectification. Et ça, c'est un élément qui est fondamental. Mais pour obtenir ces effets-là, qui sont éviter le contrôle social indispensable pour fournir des allocations de toutes sortes et mettre les gens dans une dynamique de liberté et de responsabilité, parce que c'est ça qui est au fond, hein, et sortir d'une logique d'assistance, il faut le donner à tout le monde. Il n'y a pas le choix. Parce que simplement...
C'est la condition.
Exactement.
Il y avait Marco Salvi qui voulait réagir.
Oui, c'est d'ailleurs pour cela qu'il y avait aussi des penseurs libéraux qui sont pour le revenu de base. Ça, c'est vrai. Mais mon problème avec le revenu de base, c'est que les calculs n'ont pas bien été faits. C'est ça le problème, en fait. Parce que c'est vrai que les transferts, c'est l'argent qui va d'une poche à une autre. Le problème, c'est que ce transfert n'est pas à somme nulle. On a des coûts. Parce que les gens modifient leur comportement. Et c'est vrai que c'est difficile de dire aujourd'hui comment ils vont modifier leur comportement. Mais la chose qu'on peut déjà dire, il y a eu aussi des expériences qui ont été faites, hein, qui démontrent que des gens qui travaillaient ne travaillent plus. Hein. En fait, il y a 40 ans, hein, cette idée a déjà été tentée aux États-Unis et on voyait que plus ou moins la moitié du revenu de base, hein, se substituait à des revenus du travail préexistants. Une moitié du revenu de base qui était perdu, hein, sur le marché du travail.
Alors ça nous amène tout naturellement à la troisième, au troisième pilier de la définition de ce revenu de base, qui est le revenu inconditionnel. C'est le point qui surprend le plus, hein. Un revenu de base est donné sans contrepartie de travail. Ça peut signifier qu'on va donner au flemmard. On parlait tout à l'heure de la paresse, hein. C'est quelque chose qui peut nous heurter, qui est assez opposé à la culture occidentale dans laquelle nous sommes. Est-ce que notre société peut fonctionner avec moins de gens qui travaillent, comme le suggère Marco Salvi, Serge Margel?
D'abord, on verra, hein, on verra. Je pense que de nouveau, il ne faut pas faire comme si on savait. C'est aussi une des richesses de l'initiative, c'est finalement de s'engager dans un processus un peu expérimental. Hein. La Suisse devient comme un laboratoire, en quelque sorte. Hein. On peut dire que c'est un lieu où à l'intérieur d'un pays, on va, j'espère, faire l'expérience d'une transformation sociale assez radicale. Et c'est peut-être un peu une blague hein, autour des flemmards, mais on l'entend souvent. Donc c'est pour ça qu'elle a une certaine pertinence, parce qu'on l'entend souvent. On oppose évidemment les travailleurs aux paresseux. Enfin, c'est une vieille idée du monde de l'industrie, c'est-à-dire la productivité.
Ça remonte peut-être même au-delà, hein, au christianisme, à l'idée que celui qui ne travaille pas ne mange pas.
Oui. Alors peut-être on peut encore aller plus loin. Mais en tout cas, dans le monde industriel de la productivité, la paresse est devenue le grand fléau, finalement, c'est-à-dire l'improductif. Et c'est donc un tabou, c'est enfin quelque chose qui pose des problèmes. Mais je pense qu'il doit se redéfinir aujourd'hui, justement, en séparant le travail et le revenu. Et on dit souvent que c'est un peu la dimension morale, c'est-à-dire que le travail, c'est la santé.
Et ne rien
alors on
faire,
sait aussi
c'est la
que c'est de moins en moins la santé, hein, aussi le travail. Enfin, c'est plus compliqué que ça. C'est le côté un peu pastoral, finalement, d'un certain rapport au travail, qui pense le travail comme le seul et unique facteur d'intégration. Mais je pense que si on redéfinit les choses, il faut du coup aussi ne pas viser des moutons noirs qui seraient les paresseux, les alcooliques, enfin on en a entendu des belles aussi là autour de ceux qui vont se retirer du marché du travail, sans penser que peut-être il y a une autre économie qui peut naître. Hein, on pense plutôt cette économie comme la seule et unique possibilité d'un ordre social va s'effondrer, mais il n'y aura plus que alors un reste de paresseux qui va terminer, on ne sait pas où.
Julien Duboucher-Cortet.
Je crois que là, c'est le point essentiel, si on veut, dans le débat, parce que le financement, comme on l'a dit, il y a plein d'hypothèses qui resteront des hypothèses, puisqu'on aura le résultat la fois où on aura essayé. Donc, je défie quelques économètes qui soient, aussi brillants soient-ils, de nous faire un modèle qui tienne la route en termes de prédiction. Donc ça, c'est la vraie question. Peut-on fournir collectivement un revenu à quelqu'un qui, dans la conception qu'on en a, n'offre aucune contrepartie, à qui on ne demande aucune contrepartie. Et ça, c'est évidemment le point central. Mais je crois que c'est tout l'intérêt aussi de l'initiative, c'est qu'elle bouscule des représentations qui sont erronées, archaïques, sur le rapport des personnes à leur place dans la société, au travail. Et ce qui est intéressant, c'est de casser notamment ce qui n'a qu'une réalité maintenant qui est bien amoindrie, c'est la logique d'une continuité du développement de la vie sociale avec le temps de la formation, le temps du métier et puis le temps de la retraite à peu de choses près. Là, il y a vraiment quelque chose. Et quelqu'un qui va faire un retrait effectivement du marché de l'emploi, qu'il soit femme ou homme, et je souhaiterais pour ma part que les hommes profitent de cette occasion, parce qu'à un moment, ils sont jeunes parents et qu'ils estiment que c'est important de veiller à l'éducation des enfants. C'est des gens qui ont une activité qui est plus que valable et productive au sens du bien-être social. Et puis, rien ne les empêche ensuite, quand les enfants sont plus grands, de s'investir à fond et d'aller travailler 50 heures par semaine dans un truc où ils y mettent toute leur énergie. Je crois que ça offre vraiment une possibilité de sortir de schémas assez binaires, d'introduire de la discontinuité dans le temps de vie et d'ouvrir vraiment des portes vers la richesse des individus, qu'ils soient plus ou moins fainéants. Il y en aura.
Surtout dans un processus qui a déjà commencé.
Absolument.
C'est pas à venir. Hein. Tous ces changements, ils sont là. Il faut juste en tenir compte.
Dans un contexte où le travail se flexibilise. Je vais donner la parole à Marco Salvi qui lève la main depuis longtemps pour réagir.
Non, parce que c'est vraiment la question centrale. C'est la question de la morale du travail. Moi, je crois que la majorité des personnes pensent que le travail est un bien en soi.
Hein. Mais ceux-là n'arrêteront pas de travailler.
Voilà, et il y a des élites, et les représentants de ces élites sont ici, qui pensent qu'on pourrait inventer quelque chose d'autre, ou qui pensent qu'il y a quelque chose de néfaste à cet attachement du citoyen moyen au travail. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Moi, je crois que notre société, elle pense que si on peut travailler, on devrait le faire.
Mais ça, c'est une connotation morale.
Et c'est une connotation morale, je suis d'accord avec ça. Et puis, en plus, on pense aussi que chacun est responsable pour son bonheur. Donc, on ne va pas obliger à quelqu'un à travailler, mais qu'il devra alors en supporter les conséquences. Donc ça, c'est certainement une question morale. Et même si ce sont des valeurs bourgeoises, et je crois qu'on doit les défendre, et on peut les défendre.
Moi, j'aimerais qu'on discute un instant de la faisabilité d'une société. C'est la question que je vous posais tout à l'heure. Une société sans les petits métiers. Vous citiez tout à l'heure le cas de la vendeuse qui gagne 1900 francs à mi-temps et qui donc, face à son revenu de base, se dit « j'arrête ce travail qui ne me plaît pas, ne me motive pas, ne ne m'enrichit pas, qui la remplace ? Julien Dubouchet-Cortès.
Oui, là aussi, il faut vraiment prendre la mesure de ce que représente un revenu de base pour traiter ces questions. Avant, je vais juste quand même dire, c'est le paradoxe de la pensée bourgeoise, si je, pour reprendre l'expression de Marco Salvi. Si le travail est une valeur en soi, alors n'ayez aucune crainte que les gens l'abandonnent, puisqu'il a une valeur pour soi. Et ça, j'y crois aussi, et c'est pour ça que je pense que pour une partie importante des personnes, il n'y aura pas de comportement par rapport à leur volonté d'être intégrés dans un collectif de travail, de mener une action. Je pense que ça va rester. Maintenant, le travail, c'est pas une catégorie homogène. Déjà, j'ai dit, il dépasse largement la question du salariat. Et puis, à l'intérieur du salariat, dans les emplois, il y a des emplois qui sont bons, parce qu'ils remplissent tous les critères et toutes les fonctions positives du travail, intégration, reconnaissance, revenu, épanouissement. Et puis, il y en a qui sont mauvais. Et pour revenir aux petits métiers. Alors, d'abord, ces petits métiers-là, de nouveau, leur accès est très différent si vous prenez un travail comme un travail d'appoint ou si vous en faites un travail principal. Mettons, je suis artiste et je veux me balader, etc. Maintenant, je veux me payer un voyage, il faudra bien que je travaille un peu plus pour avoir... Je peux très bien aller faire quelques mois tel métier, parce que s'il est quelques mois, ou s'il est quelques heures par semaine, c'est totalement autre chose que quand il est l'occupation principale dans la vie. Parce que c'est là où la vertu du travail est perdue. C'est quand on est investi et intégré à travers des travaux qui n'apportent pas ces fonctions et que c'est la fonction principale qu'on a dans la société.
On peut imaginer aussi que face à la disparition de toute une part des employés qui ne sont pas heureux dans leur métier et qui donc préfèrent ne pas travailler ou travailler ailleurs, faire des choses qui leur plaisent, on ait une modification du coup des salaires de ces petits métiers grâce à une modification des rapports employeur-employé.
Sans doute. Mais il me semble que la crainte, elle n'est peut-être pas tout à fait justifier la crainte de voir le travail disparaître. Parce que c'est un tout petit peu aussi l'enjeu, cette valeur travail, ou en tout cas se réduire et perdre de sa valeur prioritaire, en tout cas sa valeur morale majeure. Je ne pense pas que ceux qui croient absolument à cette valeur vont la quitter. Il n'y a aucune raison. Hein. Ceux qui sont convaincus que le travail, c'est la valeur principale, eh bien, ils iront travailler. Comme on a vu en France tous les problèmes qu'aura posé l'homoparentalité, la famille, c'était une valeur, c'est une valeur majeure, et on ne voulait pas la perdre. Et quand on a découvert qu'en fait, c'était une convention sociale, c'était dramatique. Alors qu'on peut toujours, on peut faire comme on veut. Mais tout d'un coup, elle est remise en question pour des questions historiques compliquées, d'évolution, de transformation, etc. C'est la même chose pour le travail. Il y a des choses qui changent aujourd'hui. Il faut redéfinir la question du travail, mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'éliminer. Ça va changer.
Je n'ai pas du tout peur qu'on ne travaillera plus. La question est à la marge. Hein. C'est-à-dire, à la marge, pour un économiste, ça veut dire ceux qui sont justement indécis entre le travail et le non-travail.
Mais on ne sait pas du tout quelle part de la société ils représentent, cette marge.
C'est une question empirique. Eh ben, les expériences qui ont été faites montrent que cet effet est assez fort. Hein. C'est clair qu'il y aura toujours du travail, des gens travailleront, ça c'est clair. Je n'oppose aucun genre de raisonnement à ça. Mais c'est vrai que les petits salaires seront peut-être revalorisés. C'est vrai. Mais il y a une autre possibilité. Hein. C'est-à-dire que si le bar qui paye 2500 francs son barman le week-end, eh bien, il va peut-être devoir le payer plus pour qu'il vienne travailler. Mais l'autre possibilité, c'est que le bar fermera. Vous voyez, il y a différentes marges d'ajustement.
Julien Dubouchet-Cortès.
Oui, effectivement, c'est juste. Il y a plusieurs options. Quand on va parler du travail peu désiré, pour le dire comme ça. Donc, ce travail peu désiré, il y a plusieurs solutions. Soit on continue dans certains domaines à faire ce qu'on a fait tout au long de la révolution industrielle et de ses suites, c'est-à-dire qu'on a automatisé une part du travail, donc on a supprimé des quantités invraisemblables d'emplois par automatisation, et c'est une... Je veux dire, humainement, c'est une bonne chose. Quand on n'a plus besoin forcément d'aller porter le charbon ou des choses comme ça, c'est pas forcément négatif. Oui. Et puis, l'autre aspect, c'est soit effectivement, on revalorise parce qu'on continue de vouloir payer d'autres pour le faire et à ce moment, on accepte de payer plus. Et c'est pas une mauvaise chose. Soit il y a des choses qu'on refait soi-même. Moi, si je peux travailler 30 heures par semaine au lieu de 45, peut-être que je ferai aussi mon ménage. Ouais. Voilà. C'est, donc il y a, vous avez trois options, et donc là il faut pas être non plus trop peindre le diable sur la muraille. Il y aura sûrement un mélange de ces trois choses, et puis s'il y a des choses qui sont réintégrées par des collectifs, si vous supprimez les éboueurs, il y aura rapidement des associations de quartier pour essayer d'organiser la sortie des poubelles.
Autant d'effets à découvrir dans une mise en pratique. Dernière question très brièvement que je vous pose à tous trois. Est-ce que la Suisse, par sa caractéristique, petite taille, démocratie, vous semble être un pays particulièrement adapté à la mise en place de ce principe de revenu de base? Oui ou non, pourquoi?
Moi, ça me semble comme ça, de manière assez intuitive.
Serge Margel.
Ça me semble être le cas, déjà par sa taille, par sa richesse. Et elle pourrait devenir un peu avant-gardiste, là. Elle pourrait être à l'avant-scène, audacieuse. Elle pourrait commencer au cœur de l'Europe, à montrer l'exemple, comme on dit, hein, c'est-à-dire se donner les moyens d'un projet qui, ne l'oublions pas, a aussi des échos en Europe. Hein, il y a une grande attention européenne à la question.
Mmh. Julien Dubouchet.
Oui, alors, en deux points. Alors, d'une part, c'est pas l'endroit idéal dans le sens, si on est attentif à l'effet de lutte contre la pauvreté et la misère, qui était une des inspirations, une des motivations par rapport au revenu de base, puisque c'est pas en Suisse que vous aurez le plus d'effets. Quand ils font ça en Inde, je vous assure, les effets ils sont massifs et extraordinaires. Donc, si j'avais choisi, j'aurais pris l'Inde plutôt que la Suisse. Mais par ailleurs, je pense que en termes de laboratoire, la Suisse, oui, est un très bon endroit parce que on a une société à la fois complexe, moderne et qui est très riche. Hein, je veux dire, la Suisse dans ses différentes dimensions, dans ses différentes expériences, qui a de la formation, qui a encore un peu d'industrie, qui a du tertiaire qui est ouvert sur l'extérieur. Donc on a vraiment, quelque part, là, oui, les conditions d'un laboratoire très intéressant, plutôt que des sociétés qui sont plus dépendantes au niveau économique.
Et Marco Salvi,
Par rapport à tout ce qui a déjà été tenté dans question revenu de base, la Suisse serait une expérience gigantesque.
Hein. En termes d'échelle, vous dites.
En termes d'échelle. Et c'est ça qui m'étonne un peu, parce que souvent, ceux qui défendent ce genre d'idée, ils défendent aussi le principe de précaution. D'être prudent quand on introduit des OGM, quand quelque chose qui est une capacité disruptive sur tout un pays ou sur l'économie, eh bien maintenant, soit l'initiative 1-12 ou celle-ci, voilà, elles nous promettent plein de choses qui sont en fait, je crois, des illusions.
Merci à Marco Salvi, économiste à Avenir Suisse, et avec lui Julien Dubouchet-Cortet, membre du comité de Bien Suisse qui soutient l'initiative, et Serge Margel, philosophe qui ouvrait au micro de Laurence Di Félix des pistes de réflexion autour de cette initiative populaire sur revenu de base qui sera déposée officiellement le 4 octobre à Berne. Babylone du jour vous était proposé par Laurence Di Félix et Nancy Psilantis dans une réalisation signée Bruno Seriba. Merci à Anne Marchand au studio de Genève ainsi qu'à Nicole Corpato, notre assistante de production. Babylone, c'est du lundi au vendredi sur Espace 2 à 9h, rediffusion à 19h. Si vous voulez podcaster l'émission, rts.ch/Babylone, et si vous voulez laisser un commentaire, vous êtes les bienvenus. Vous écoutez Espace 2, merci. Il est 10h.